France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture en ce dimanche 8h30 pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Le 27 juillet dernier, je vous proposais, rappelez-vous, une émission autour des 500 ans de l'anabaptisme enregistrée à la médiathèque protestante du Stift à Strasbourg, quelques semaines plus tôt. Au cœur de Strasbourg, à deux pas de l'église Saint-Thomas, il existe en effet un lieu un peu secret, témoin de près de 5 siècles d'histoire protestante. La médiathèque du Stift n'est pas seulement une bibliothèque, c'est une mémoire vivante, ouverte à tous. Aujourd'hui, elle met en lumière un épisode marquant de notre histoire au travers d'une exposition, la guerre des paysans de 1525, une révolte sociale, une révolution inachevée et une guerre où la foi jouer un rôle inattendu. Nous allons en parler ce matin avec le directeur de cette médiathèque, Thomas Guillemin. Bonjour Thomas Guillemin.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Radio France. Thomas, vous êtes responsable de cette médiathèque, je le disais, à Strasbourg depuis septembre 2022.
Exactement.
Et avant d'occuper ce poste, vous avez réalisé une thèse d'histoire moderne consacrée à un théologien calviniste converti au catholicisme contemporain de Louis XIV. Et vous avez également étudié plusieurs bibliothèques protestantes, notamment celle de l'Académie réformée de Saumur et de certains de ses professeurs. Dans une vie antérieure, me disiez-vous, vous avez également travaillé sur quelques écrivains aux marges du surréalisme, Jacques Vacher, Stanislas Rodansky ou encore Arthur Cravan.
En effet.
Alors, on ne parlera pas d'eux ce matin, même si cela pourrait être aussi passionnant. On va évoquer cette médiathèque protestante du Stift, un lieu discret mais très riche, disais-je. Comment vous la présenteriez, vous, à quelqu'un qui n'y est jamais entré ?
Alors, on peut la présenter de différentes manières. D'une manière purement géographique, il va falloir descendre au sous-sol, puisque nous sommes au sous-sol de ce bâtiment qui s'appelle le Stift, donc du mot allemand qui veut Stiftung, qui veut dire fondation.
Peut-être un tout petit mot sur le bâtiment, parce qu'on en parlait juste avant de commencer cette émission. C'est un magnifique bâtiment, juste à côté de la Vieille France,
à Strasbourg. Voilà, juste à côté de la Vieille France, à Strasbourg, entre l'île, donc le canal qui passe dans Strasbourg, et l'église Saint-Thomas, vous avez ce bâtiment qui réunit différentes institutions. D'une part, l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine, ouais, du moins ses bureaux avec son l'UEPAL, effectivement. Et puis, toujours du côté administratif et institutionnel, le chapitre de Saint-Thomas. Donc, ces deux institutions sont les deux tutelles de la médiathèque. Mmh. Et le chapitre de Saint-Thomas est le seul chapitre protestant de France, alors qu'il en existe plusieurs en Allemagne. C'est un héritage du XVIe siècle, en fait, ouais, puisque au moment où Strasbourg passe à la réforme, entre 1524 et 1529, les églises de Strasbourg sont effectivement touchées par le mouvement réformateur et le chapitre, qui en fait est le chapitre qui dépend de l'église avec des prêtres à l'époque, bien sûr, qui le composent, des chanoines plutôt, le chapitre passe à la réforme. Il y a évidemment des tensions, tout ça ne se fait pas très facilement. Et après 1529, le chapitre donc n'est plus constitué de prêtres mais de pasteurs. Et il va traverser les différentes histoires de l'Alsace, les différents moments historiques de l'Alsace, la guerre de 30 ans, la révolution, l'annexion d'abord à la France sous Louis XIV, la révolution française. Et puis après, pour la période contemporaine, bien sûr, la période allemande à partir de 1870, et puis le retour à la France, et enfin la période nazie. Et il va traverser toutes ces étapes sans jamais... alors évidemment, il connaît des turbulences,
mais il reste,
notamment au moment de la Révolution française. Hein, les biens des églises protestantes sont exemptés des saisies nationales grâce à l'intervention d'un des chanoines du chapitre qui s'appelle Christophe Guillaume Cor et qui obtient cette exemption et qui permet notamment que les collections patrimoniales que nous conservons actuellement échappent aux saisies révolutionnaires en 1789.
Alors justement, cette médiathèque, qu'est-ce qu'on y
trouve ? Donc dans ce bâtiment, vous avez donc le chapitre de Saint-Thomas, et le chapitre est au service de la vie étudiante. Mmh. Et donc dans ce bâtiment, vous avez dans l'aile gauche un restaurant universitaire, dans l'aile droite des chambres universitaires, et au sous-sol la médiathèque, comme je le disais, qui est l'héritière donc de deux institutions liées au livre. D'une part, une bibliothèque qui est créée à la fin des années 1540 par l'un des quatre réformateurs de Strasbourg, Gaspard Hédion, qui crée un collège pour étudiants pauvres souhaitant devenir pasteur. Et dans cette institution, il crée une bibliothèque. Donc ça, évidemment, vous le devinez, c'est ce qui va constituer la partie patrimoniale de nos collections. Et puis, les églises, de leur côté, avaient, à partir des années 70 jusqu'à la fin des années 90, un centre de documentation. Et le chapitre, et à l'époque, c'est pas encore l'Union, mais les deux églises, se mettent d'accord au début des années 2000 pour réunir ces deux ensembles et créer la médiathèque protestante qui va s'appeler Du Stift à partir de 2021. Et donc, dans ce sous-sol, vous avez accès, évidemment, aux collections contemporaines. Il y a une partie en réserve qui évidemment n'est pas accessible au public, où on conserve environ 80 000 documents, et dans la salle patrimoniale qui se trouve au rez-de-chaussée, juste avant l'escalier pour monter dans les chambres des étudiants, vous avez environ 15 000 documents qui vont de la période des incunables, donc entre l'invention de l'imprimerie jusqu'à 1500, et puis jusqu'au XVIIe siècle.
Ouais. Quels sont les fonds les plus remarquables à vos yeux que vous conservez aujourd'hui ?
Alors, du côté patrimonial, on conserve effectivement plusieurs fonds très intéressants, d'autant plus par rapport à l'histoire des bibliothèques de Strasbourg que les bibliothèques de la ville, donc la bibliothèque municipale et la bibliothèque de l'Académie, qui avaient été réunies au moment de la Révolution française, justement, étaient conservées au XIXe siècle au Temple Neuf, donc dans le cœur d'une des églises du centre-ville de Strasbourg, qui est bombardée en 1870, et donc toutes les collections municipales et la bibliothèque de l'Académie protestante disparaissent. De ce fait-là, on est la plus ancienne bibliothèque de Strasbourg encore existante, et de loin, la collection la plus importante, c'est une collection qui réunit les traités théologiques du XVIe siècle côté protestant, donc qui a un nom latin que je vous épargne, mais qui réunit près de 330 textes de Luther publiés de son vivant. On a aussi évidemment plein d'autres réformateurs des années 1520-1530, Zwingli à Zurich, Bullinger, pour les marges et la réforme radicale qu'on évoquait à lors du Salon du Livre, Hummeyer et puis Schwenkfeld. On a, et aussi, on en parlera tout à l'heure, les 12 articles des paysans de Swab. Donc ça, c'est un fonds vraiment très riche qui couvre aussi l'humanisme rhénan. On a aussi des traités d'Erasme en édition strasbourgeoise, et puis des traités d'un autre humaniste moins connu, mais qui joue un rôle très important au début des années 1510, quand l'empereur Maximilien fait une enquête auprès des intellectuels de l'époque pour savoir s'il faut détruire les livres des Juifs. Le seul qui s'oppose à cette destruction, c'est Johannes Reuchlin, et on conserve plusieurs traités de cet humaniste. Donc ça, c'est un des premiers fonds très importants, le fonds historique, en fait, celui du Collège Saint-Guillaume. Et un deuxième fonds, qui est arrivé dans les collections de la médiathèque bien plus récemment, au tournant des années 80-90. C'est une partie de la bibliothèque d'un des directeurs du Stift, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Rodolphe Peter. Et Rodolphe Peter, outre avoir été directeur du Stift, professeur de théologie pratique à l'Université de théologie protestante de Strasbourg, la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, était aussi historien du livre. Mmh. C'est lui qui, avec Jean-François Gilmont, a établi la bibliographie de Calvin en 3 volumes. Et il avait une bibliothèque, il était bibliophile, il avait une bibliothèque considérable. Et plus d'un millier de titres de sa bibliothèque ont été légués à la médiathèque protestante. Ce qui fait qu'on n'est pas simplement le témoin vivant du protestantisme rhénan, mais on est aussi un centre de ressources du livre imprimé pour la France huguenote, et notamment le XVIIe siècle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui concernent l'Académie de Saumur, par exemple, pour ne pas la citer.
Vous venez de l'ouest de la France, vous me le disiez, c'est pour ça, j'imagine. Dans Soleil, le rendez-vous avec la parole, c'est l'écoute d'un texte biblique. Il y en aura deux ce matin, très courts l'un et l'autre. Ce premier est une parole majeure des évangiles, et plus précisément encore de Jésus. Ce verset a été choisi par votre collègue Mélanie Martin, comme représentative de l'identité de la médiathèque. Nous allons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, dans la traduction œcuménique de la Bible, avec la voix de Lydie Jean-Théodore.
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
La médiathèque protestante du Stift à Strasbourg peut être vue en effet comme un outil permettant de vivre, d'expérimenter cette parole du Christ, Thomas Guillemin.
Tout à fait, on vient de parler des collections patrimoniales, mais on est aussi un service de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et à ce titre, la médiathèque compte dans son équipe Mélanie Martin, que vous venez de citer, qui est pasteur de l'UEPAL, et qui travaille dans les à la médiathèque sur les collections qui concernent la mission patrimoniale et catéchétique, puisque on propose en accès libre, comme dans une bibliothèque classique, comme dans une bibliothèque municipale, 14 000 documents en accès libre dans une salle de lecture, ainsi que évidemment des périodiques avec la presse nationale et la presse régionale. Et cette mission paroissiale et catéchétique vise à apporter des ressources pour les paroissiens de l'UEPAL, mais pas seulement, j'y reviendrai, pour ce qu'on appelle les acteurs d'église, qui sont vraiment l'un de nos principaux publics. Et dans ces acteurs d'église, vous avez évidemment les pasteurs, les aumôniers, mais en Alsace, avec le cas particulier du Concordat, les enseignants de religion, qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Et on a aussi, du côté de ces acteurs d'église, évidemment, des paroissiens qui soit sont impliqués dans leur paroisse et vont transmettre des choses en utilisant des ressources de la médiathèque, soit qui, pour leur propre compte personnel, pour approfondir leur foi ou leur connaissance ou explorer d'autres domaines, viennent à la médiathèque comme lecteurs particuliers.
Cette vocation culturelle se manifeste aussi, vous l'avez évoqué, par des expositions temporaires. Et là, ça nous permet de parler de celle qui est là maintenant, 500 ans de ce que l'on a appelé la guerre des paysans en Alsace. Comment s'est fait ce choix ?
Alors, c'est assez simple. On a été sollicité dès avant que moi j'arrive en septembre 2022, mon collègue Jérémy Collère, donc qui est le troisième membre de l'équipe, qui s'occupe notamment du catalogage du fonds ancien, m'a indiqué qu'on avait déjà été sollicité pour savoir si on ferait des choses sur la guerre des paysans, puisque c'est un événement assez important dans l'histoire de l'Alsace. L'historien Georges Bischoff, qui est vraiment le spécialiste du sujet dans la région, explique que c'est le moment où les Alsaciens, quand les bandes paysannes se réunissent tout ensemble au milieu du mois de mai 1525, prennent conscience de leur unité en tant que groupe géographique et en Alsace. Et donc, on a été sollicité assez régulièrement. Alors, vous ferez quelque chose sur la guerre des paysans ? Et on s'est dit oui, on va le faire. C'est de toute évidence très important. Et en plus, on a noué un partenariat avec nos collègues des archives d'Alsace qui sont venus nous chercher en disant ça serait bête qu'on fasse deux fois la même expo.
Ouais, bien sûr.
Et donc, ils se sont concentrés sur une exposition sur les aspects politiques, sociaux. Et nous, on s'est consacré à la dimension religieuse de l'épisode.
Deux expos à deux endroits,
voilà,
qui se complètent.
Qui se complètent. C'est tout à fait l'objectif du projet et ça marche plutôt bien.
Le titre avec son sang couleur de rose.
Alors, cette première accroche, c'est évidemment pour avoir une formule un peu jolie, et c'est une citation d'une lettre adressée par la bande des paysans de Neubourg, donc un espace pas très loin de Strasbourg, quatre jours après le début de l'insurrection, qui commence le jour de Pâques 1525, le 16 avril, cette année-là, donc ce qui montre que tout ça est coordonné. C'est pas un mouvement spontané.
Ouais.
Et donc c'est une paraphrase d'un des passages des 12 articles des paysans de Souabe, qui est le texte programmatique que vont écrire les paysans en Souabe, et puisque la guerre des paysans commence en juin 1524 côté allemand. Souabe, Thuringe, Palatinat principalement. Ça touche aussi la Suisse, l'Autriche, et puis sur l'actuel territoire de la France, l'Alsace et la Franche-Comté, ainsi que la Lorraine, bien sûr. Et le texte des 12 articles va être diffusé sur tout cet espace-là, même si au départ c'est une revendication qui vient de Souabe.
Et vous l'avez d'ailleurs, je crois, dans l'expo.
Justement, ça a été une des découvertes, une redécouverte en préparant l'exposition. Donc on savait qu'on avait dans les 330 textes de Luther que je citais tout à l'heure, les textes que Luther écrit en 1525 en réaction à la guerre des paysans. Donc d'une part, il y a quatre textes principaux. On a aussi le texte de Philippe Mélenchon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois deux éditions différentes. Une édition wittembergeoise, puis une édition locale, soit strasbourgeoise, soit d'Haguenau, où il y avait aussi un imprimeur protestant. Et en travaillant sur les catalogues, à un moment, on s'est dit... Mais en fait, le texte des 12 articles, s'il a été catalogué, il est dans la section des anonymes, dans laquelle on va rarement vérifier.
Ah oui.
Et en allant vérifier, on l'avait. Donc c'est très important parce que c'est une pièce très rare. Avant qu'on le trouve, il était réputé conservé en un seul exemplaire en Alsace, aux archives municipales de Colmar. Et en travaillant sur notre exemplaire, on s'est rendu compte qu'il y en avait aussi un conservé à Atlanta, dans une bibliothèque d'une université protestante.
Ah oui. Alors, justement, par rapport à ces 12 articles, il y a un verset qui est rattaché à ça. C'est le deuxième rendez-vous avec la parole que vous nous proposez, un passage extrêmement court. Soyez attentifs. Vous nous direz donc les éléments qui nous permettent de comprendre ce court verset. C'est encore Lydie Jean-Théodore qui nous lit donc le verset 17 du chapitre 4 de la première épître de Pierre.
Car voici le temps du jugement. Il commence par la famille de Dieu.
Alors Thomas, expliquez.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les 12 articles sont publiés dans différentes villes de l'Empire. Il y a 25 éditions identifiées. La première paraît à Augsbourg et en un mois et demi, il y a en tout 25 éditions qui sont publiées dans l'Empire pour possiblement 25 000 exemplaires diffusés. Et il y a deux éditions à Strasbourg, une chez Wolfgang Köpfel, donc qui est le neveu du réformateur Wolfgang Capiton, et l'autre chez les héritiers de Matthias Schürer, un imprimeur humaniste. Et cette édition strasbourgeoise, donc celle de Schürer, c'est celle dont nous conservons un exemplaire, qui a deux particularités. La première, de porter sur sa page de titre un bois gravé qui représente deux paysans en train de discuter, et de porter sous ce bois gravé donc ce verset de l'épître de Pierre. Et c'est la seule édition des 12 articles de la paysannerie qui porte un verset biblique. Ouais. Toutes les autres ont des illustrations, le titre, et d'ailleurs le titre strasbourgeois lui-même est différent des autres éditions, ouais, même si le contenu est exactement identique. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de citer ce verset.
Bien sûr. Comment vous avez travaillé pour rendre ce sujet du XVIe siècle accessible, vivant pour les visiteurs d'aujourd'hui?
Alors l'idée, ça a été de réussir à respecter cet engagement qu'on avait avec les archives d'Alsace de bien répartir les choses, tout en proposant quand même des références qui permettent aux gens qui ne viendraient que chez nous de comprendre l'ensemble de l'événement. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de plonger dans le bouleversement religieux des années 1500-1520, tout en mettant en lumière les épisodes antérieurs à la guerre des paysans, qu'on appelle le Bunchu. Et c'est une série de révoltes, mais qui n'ont pas la dimension religieuse qu'aura la guerre des paysans en 1525, même s'il y a déjà des éléments religieux dans ces mouvements-là. Et donc, on est parti sur une présentation de ce bouillonnement religieux, pour ensuite expliquer comment la guerre des paysans, pour ces acteurs côté paysan, mais aussi du côté de la répression, notamment du duc de Lorraine, est un enjeu religieux crucial, enfin fondamental. Et l'idée était de pouvoir montrer en vitrine des documents qui témoignent à la fois de ce bouleversement religieux et de l'influence des idées réformatrices sur les paysans, puisque dans cette collection que j'évoquais tout à l'heure, où on conserve tous ces traités du XVIe siècle, donc qui s'appelle Varia ad Reformationem Pertinentia, pardon, nous avons aussi tous les textes de Luther, des textes réformateurs de 1520 de Luther, dans différentes éditions, qui jouent un rôle crucial influence sur les revendications des paysans, et aussi deux autres textes postérieurs, dont un très important, celui de 1523, où Luther défend l'idée que les assemblées chrétiennes peuvent élire et révoquer leur pasteur, et ce sera le premier article des revendications dans les 12 revendications des paysans. Le deuxième étant une dénonciation du mésusage de la dîme, pour pouvoir le récupérer et le mettre au service de la vie des communautés chrétiennes. Donc on voit bien que les deux premiers articles expriment très clairement l'identité chrétienne des paysans et le fait que leur révolution se place dans leur perspective d'un point de vue chrétien. Ouais.
Alors avec nous à cette table, discret mais bien présent, il y a Vincent Smetana, notre chroniqueur. J'ai bien remarqué, Vincent, que vous étiez à l'affût de ce qui est dit ce matin dans ce studio et vous avez même sursauté, réagi quand un mot a été prononcé, et plusieurs fois même. Exposition. Bonjour Vincent.
Vous m'avez vu sursauter. J'ai tressailli. Quel autre mot aujourd'hui? Exposition. Exposition, du latin expositio. Nom commun féminin signifie la mise en vue d'une chose ou l'état de cette chose ainsi exposée. On parlera communément d'une exposition de peinture, de sculpture, d'automobile à explosion, de trophées bizarres, de chats et de chiens bien pignés, d'insectes primitifs décongelés du blizzard, de manuscrits hors d'âge ou de produits laitiers. Sans oublier l'exposition de fin d'année CP des porte-biques en coquillage, et aussi bien sûr de vases chinois très 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 abîmés, des objets très rares et très chers, puisque ce qu'on dit, un vase chinois très vieux est très rare, mais qu'un vase chinois très cher et aussi très très abîmé n'est pas rare. Enfin, c'est un peu comme les chevaux. Enfin, bref, exposer, c'est montrer, c'est dévoiler, c'est révéler, c'est mettre nettement en évidence quelque chose ou quelqu'un, c'est faire connaître, faire en sorte d'expliquer ou d'interpréter, c'est l'action de disposer de manière à soumettre à réaction. Exposer, c'est aussi présenter de façon claire et détaillée la partie initiale d'une œuvre, au théâtre ou dans les romans, les personnages et les circonstances du drame ou de l'intrigue, ou en musique, la partie première d'une composition en forme de fugue, par exemple, présentant le sujet ou le thème du morceau avant qu'il ne se décline en chemin de traverse. Pareil en jazz, genre j'expose le thème, puis avec génie je le décline, enfin...
C'est l'émission de la semaine prochaine.
Ah oui, non mais voilà,
on parlera de jazz.
Je tease l'histoire pour que s'inscrive en mémoire déjà la situation de départ du concept de la mélodie, avant de laisser se déployer la grâce de l'imaginaire. Tiens, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, en fait. Mettre un mot en lumière, l'exposer, le faire voir, en présenter la mélodie, le son, le thème, avant de le décliner, car je vais le décliner, rien ne sert de s'impatienter, il faut décliner à point.
Mais alors décliner,
voilà, décliner, Vincent. Oui, je décline, voilà, je décline, j'y vais, je décline, voici le thème. Nos vies sont-elles bien exposées? C'est-à-dire, vibrent-elles dans la lumière ou sont-elles sous-exposées, c'est-à-dire manquent-elles de clarté, de détails dans les ombres, manquent-elles de contraste nos vies, sont-elles saturées de stress et de noirceur, ou alors sont-elles surexposées nos vies, c'est-à-dire fragilisées, blessées, illisibles, brûlées, cramées? L'équilibre, voilà la quête de nos existences, une bonne balance, une bonne photométrie, hein, littéralement, une juste qualité d'exposition à la lumière. Vous êtes enfants de lumière, nous dit-on, alors marchez dans la lumière, pas à côté, allez, concentrez-vous, cette lumière est pour vous, vous avez la lumière, marchez tant qu'il est temps, soyez d'ailleurs vous-même lumière, d'ailleurs vous l'êtes, hein, afin que se révèle l'intime et le fragile, le fort et le doux, le tendre et l'amer. Notre cœur est un artisan solaire. Notre courage à venir sera de saisir nos vies telles qu'elles sont, et d'en serrer à cœur la plénitude et l'espérance.
C'est très intéressant, en tout cas, de faire ce lien avec la photo, avec l'image exposée, surexposée, sous-exposée. Une histoire d'ombre et de lumière, en somme.
Ah, Jean-Luc, être ou ne pas être dans la lumière, telle est la question. Voyez qu'exposition a pour synonyme éclairage, narration, argument, situation, position et récit. En voilà une bien belle perspective, hein. Nos vies, vécues en pleine lumière et ainsi s'exposant, formule un récit et un argument que voici. Se réjouir d'une partition de vie sur laquelle nos existences s'exposent et ainsi jour après jour déclinent leur étonnante respiration, leur chant, leur mouvement propre, exposé, littéralement posé hors de soi, une réalité de vie et une perspective confiante qui transcende toutes nos contradictions. Partir, sortir, se laisser un jour toucher ou séduire, devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs, voici nos étrangetés, écrit le philosophe Michel Ster. Oui, voici, car non, il n'y a pas d'autre façon de s'exposer que de prendre le risque d'être en vie. Il n'y a pas d'apprentissage sans exposition à l'autre. Non, nous ne saurons jamais qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons sans nous exposer au vertige de ce qui est tout autre que nous. Même si ça nous brûle et nous déroute, en prendre le risque, c'est être en vie, debout, en pleine lumière. Et qui ne veut pas ça? Voilà, fin de ma déclinaison sur le mot « expo » et retour au thème d'Acapo. Je vous laisse la main, Jean-Luc.
Merci Vincent, passionnant tout ça et très inspirant, ouvrant certainement un prolongement, une réflexion personnelle possible pour nos auditeurs. Mais revenons à cette exposition, Thomas, justement. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir. À ce que vient de dire Vincent, très vite.
Oui, alors justement, en termes de narration, on a essayé de retracer une évolution, les influences et les évolutions de cette explosion du protestantisme et son influence du côté social, tout en montrant aussi comment les autorités politiques vont se positionner face à cet événement. En mettant d'une part en lumière pour la toute première fois la place du chapitre de Saint Thomas dans cet épisode, puisqu'il n'avait jamais été étudié dans l'historiographie alsacienne. Donc grâce à l'aide de l'historien Georges Bischoff, on peut présenter quelques rares documents qui permettent de mettre en évidence la place du chapitre dans cette guerre des paysans, et aussi montrer comment le chapitre a conservé des archives très importantes sur ce dossier, notamment le journal d'un juriste et partisan de la réforme, mais strasbourgeois, donc qui s'appelle Nicolas Gerbel, mais qui était plutôt proche de Luther et Mélenchon plutôt que des réformateurs alsaciens. et qui, dans son journal personnel, vraiment son journal intime, il retrace, et il est une source précieuse pour connaître un certain nombre d'événements de la guerre des paysans en Alsace. Et évidemment, du côté de la répression, la ville de Strasbourg, elle s'oppose sur une ligne un peu médiane, tentative de négociation, puisque une grande partie de sa richesse repose sur l'exploitation des terres de l'Alsace, donc sur le rôle des paysans qui sont impliqués dans le mouvement. Alors que du côté de ceux qui vont réprimer le mouvement et qui fera de cette révolution, comme vous l'avez dit, une révolution avortée, c'est le duc de Lorraine qui intervient, puisque là on est dans des enjeux à la fois religieux et politiques vis-à-vis de la place de ce jeune duché entre la France et le Saint-Empire. Et donc, pour contrebalancer son engagement dans les guerres d'Italie, quand Antoine de Lorraine veut se rapprocher de Charles Quint, eh bien il s'engage, même si sa foi catholique est sincère, et donc il est persuadé de réprimer des affreux hérétiques, bien sûr. Il s'engage, et en quelques jours, entre le 15 et le 20 mai 1525, la révolution alsacienne est balayée lors de trois massacres qui ont lieu à Lupstein, Saverne et Chervillers-Châtenois. Et en tout, on estime qu'en Alsace, il y a eu 30 000 victimes de cet épisode pour l'ensemble de l'événement sur le Saint-Empire. 100 000 victimes sur 300 000 personnes impliquées, ce qui fait de la guerre des paysans dans son ensemble, hein, pas seulement en Alsace, la deuxième révolution de l'époque moderne avant la révolution, après la Révolution française.
Alors Thomas, on arrive à la fin de notre émission. Rappelez que cette expo est à voir donc jusqu'au 31 octobre à la médiathèque, qui est ouverte, elle, les lundis, mardis, jeudi et vendredi après-midi, le mercredi de 9h à 18h. C'est au 1B quai Saint-Thomas à Strasbourg, ou sur rendez-vous également pour des recherches ou demandes spécifiques. Le catalogue est consultable en ligne, médiathèqueprotestante.fr. Merci Thomas Guillemin.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis juste une petite chose à rajouter, à évoquer rapidement, ce sont les rencontres du protestantisme de liberté, la 50e édition qui se déroulera à 7 au Lazaret le week-end prochain, les 11 et 12 octobre, autour du thème « De quel Dieu sommes-nous athées ?». Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ces rencontres dans Solae. Pour plus d'informations, en tout cas, rendez-vous sur le site libre-croyant-e.com. Et nous nous séparons avec une prière pleine d'énergie. C'est l'un des titres du nouvel album Grâce Infinie du collectif Cieux Ouverts, sorti le 26 septembre et disponible sur les plateformes et en physique sur le site www.premièrepartie.com. Notre Père. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Massimo Bellini et Thomas Jost, et avec Inès De Bruyne à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À suivre sur Culture, tout d'abord les informations, puis ensuite votre rendez-vous talmudique présenté par Marc-Alain Wachnin. Et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
Nous provient de ta main.